journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, bienvenue dans l'émission où vous avez la parole pour commenter l'actualité, intervenir en direct, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout ailleurs dans le monde. Vous pouvez également nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux, hashtag JDA. Aujourd'hui, nous parlons du Niger où les arrestations de leaders de la société civile se multiplient. Leur délit, vouloir manifester contre la loi de finances 2018 malgré les interdictions. Après Ali Idrissa, Moussa Tchangari, Nuhu Mahamadou Arzika ou encore Lirwana Abdurrahman, c'est au tour de Michael Zodi, Ibrahim Diori et Abdurrahman Hidé d'être incarcérés depuis dimanche soir. L'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme dénonce un harcèlement judiciaire et des détentions arbitraires qui visent, je cite, à punir leurs activités pacifiques et légitimes de défense des droits humains. Mais selon Mohamed Bazoum, ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Niger ne fait qu'appliquer la loi. Et il rappelle que les manifestations sont interdites pour des raisons de sécurité. Alors que pensez-vous de ces arrestations? La sécurité est-elle une raison suffisante pour interdire les manifestations? Nous en parlerons avec Issa Garba, par téléphone depuis Niamey. Il est président de l'association Agir pour être au Niger et secrétaire à l'information et à la communication de la campagne. Tournons la page avant de parler du Niger. Séance de rattrapage sans plus tarder de vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour à tous les Africains et notamment à tous les Camerounais. Une fois de plus, l'aéroport international de Douala au Cameroun pourrait être fermé pour état de délabrement avancé selon l'Organisation de l'aviation civile internationale. Voilà un aéroport qu'on a construit depuis plus de 50 ans et à chaque fois on dépense des milliards de francs pour dire, pour soi-disant qu'on fait une rénovation. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de raser cet aéroport et d'en construire un autre? Qu'est-ce que cela peut coûter à l'État du Cameroun de construire un aéroport digne de ce nom? Mais tout le temps, les gens, ils votent des milliards au lieu de construire un aéroport qui est la porte d'entrée même d'un pays. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est temps que nos responsables soit digne. Le Cameroun est en état de délabrement dans tous les sens. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et merci et bonne journée à tous les Camerounais. Au revoir.
Bonjour, amis du JDA. Je suis du Congo Brazzaville et j'appelle juste pour exprimer mon point de vue par rapport à la corruption généralisée qui sévit en Afrique. Mais je pense que aujourd'hui, les dirigeants politiques et responsables publics des pays d'Afrique subsaharienne doivent mener une lutte contre la corruption. L'argent détourné doit plutôt servir aux investissements dans les programmes d'éducation, de santé et sociaux. Voilà.
Oui, bonjour Madame Armand, excusez-moi de parler du sujet d'hier, ça m'a beaucoup interpellé à propos de ce qui se passe dans notre pays, en général l'Afrique, tout entièrement. Nous les Africains, on doit apprendre à faire l'économie, à épargner, à faire des réductions pour essayer de lutter contre la crise économique qui est en train de assommer l'Afrique et contre la misère partout en Afrique. Il y a deux volets. Un, réduire le nombre de ministres. Réduire normalement certains organismes qui ne servent à rien à l'État, comme le Sénat, certains organismes qui ne servent vraiment à rien. Diminuer le nombre de ministres, diminuer les salaires, essayer de relancer l'économie africaine, essayer de lutter contre la corruption, essayer d'un peu de lutter aussi pour avoir une démocratie saine et transparente. Voilà le sujet plus intéressant pour notre Afrique. Mais aujourd'hui, je vois qu'aujourd'hui, nous, on n'a rien compris. Lorsque nous passons des moments très difficiles, certaines personnes, nombre de ministres, pour faire plaisir à ses amis, dans un pays très pauvre, très endetté, vous voyez, il y a 65 ministres. C'est-à-dire que oh, dans les pays développés comme la France, ils sont à trentaine ou à vingtaine de ministres. Il faut jumeler, il faut croiser les ministères pour diminuer la crise. Et c'est un peu c'est le train de vie de certaines personnes au gouvernement pour relancer l'économie. Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'on va relancer l'Afrique avec la masse salariale, le vol, la corruption, tout ça, on ne peut pas s'en sortir. Et aussi de faire avancer la démocratie. Parce que la démocratie dans un pays, c'est ça qui fait, qui pousse les investisseurs dans le monde entier à devenir investis. Merci, amis du JDA.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Merci à Mandile Pofu qui les a Sélectionné aujourd'hui dans le JDA direction le Niger, la société civile avait de nouveau prévu ce dimanche 15 avril de manifester contre la loi de finances 2018 malgré l'interdiction par la municipalité de Niamey. Après des échauffourées entre contestataires et forces de l'ordre, plusieurs membres de la société civile ont été arrêtés dans la soirée, dont Michael Zodi, coordinateur de la campagne Tournons la page. Nous en parlons tout de suite avec Issa Garba, par téléphone depuis Niamey, président de l'association Agir pour être au Niger et secrétaire à l'information et à la communication de Tournons la page Niger. Issa Garba, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Merci d'être avec nous, Issa. Tout d'abord, des nouvelles de vos compagnons, des leaders arrêtés dimanche. Ont-ils été conduits devant un juge et quels sont les faits qui leur sont exactement reprochés?
Merci beaucoup Stéphanie de l'opportunité que vous nous donnez pour que nous puissions nous exprimer par rapport à la situation délétère que vivent pas seulement les acteurs de la société civile, mais tout plus les citoyens nigériens actuellement, au vu de la loi de finances que nous trouvons, ou que nous jugeons scélérate et antisociale. Effectivement, pour revenir sur nos camarades qui sont, ils sont actuellement en détention dans les locaux de la police judiciaire, et on les reproche d'avoir organisé et participé à une marche interdite et de dégradation des biens publics et privés. Et c'est ça les chefs d'accusation qui sont pour le moment retenus contre eux, et cette information nous la détenons par le biais des avocats qui suivent le dossier pas à pas.
C'est à peu près les mêmes accusations que la vingtaine autres de personnes qui avaient été arrêtées fin mars, pareil dans les mêmes circonstances. Plusieurs leaders ont été transférés dans des prisons aux quatre coins du pays. Vous avez des nouvelles sur leurs conditions de détention, Issa?
Effectivement, il y a plusieurs leaders de la société civile, y compris certains camarades, qui ont été arrêtés le 25 mars et puis déportés dans les différentes prisons. C'est des prisons qui sont connues ici au Niger comme des prisons de haute sécurité, des prisons qui ont eu une certaine célébrité parce que c'est des prisons qui ont été construites au temps colonial. C'est-à-dire, pour vous dire que c'est vraiment des prisons qui ont été juste réservées aux indigènes que nous y étions avant l'indépendance. C'est des prisons qui ont été construites avant l'indépendance. Donc, vous voyez les conditions de détention. Je n'ai même pas besoin de vous dire. Quand je vous dis que c'est des prisons qui sont construites en temps colonial, donc vous voyez que vraiment les conditions restent à désirer, vraiment, parce qu'ils sont non seulement ils sont loin des familles, des proches, des camarades et même de leur défense, qui sont des avocats. Et il faut parcourir à peu près 150 km pour avoir accès à eux. Et souvent, quand vous venez, même c'est 5 minutes, 10 minutes, vraiment, les conditions, je vais vous dire, sont des conditions extrêmement précaires dans lesquelles ils sont. Et nous pensons que nous allons nous donner les moyens pour que vraiment ces gens-là puissent retrouver leur liberté.
Ce symbole est terrible. On connaît effectivement les conditions dans les prisons nigériennes. Dans quelques instants, on va écouter les auditeurs. Issa Garba, je redonne le numéro si vous voulez intervenir d'ailleurs. 01 55 07 58 00. Issa Garba, Mohamed Bazoum a estimé que les autorités finalement ne faisaient qu'appliquer la loi et que les manifestations étaient interdites pour des questions de sécurité. On sait, le Niger est dans l'œil de cette vague terroriste. Mohamed Bazoum, ministre de l'Intérieur, déplore notamment que ces actions soient organisées en soirée, voire la nuit. Qu'en pensez-vous? Est-ce que finalement il n'y a pas une sorte de provocation aussi de la part de la société civile d'aller manifester le soir dans ces conditions?
Merci Stéphanie. En réalité, la provocation, s'il y a provocation, comme vous le dites, ça ne venait que du Sieur Bazoum. Nous ne provoquions jamais. Parce que nous, tout ce que nous faisons, nous l'inscrivons dans le cadre de la légalité, dans le cadre de la règle de droit. La Constitution nous a autorisé à manifester. Il y a une loi qui a été prise en 2004 qui autorise, qui encadre les manifestations sur les voies publiques. Nulle part dans la Constitution, nulle part dans la loi, il n'a fixé des heures qui sont prévues pour les manifestations. Par contre, eux, quand ils étaient arrivés au pouvoir, ils ont pris un arrêté, en ce moment-là, le maire de la ville de Niamey, pour interdire les manifestations les jours ouvrables. Toute chose qui est contraire à la Constitution et à l'esprit de la loi, encadrant les manifestations sur les voies publiques. Donc vous voyez, ni la Constitution, ni la loi qui encadre, aucune de ces deux dispositions ne parle d'horreur par rapport aux manifestations. Aucune de ces lois. Donc dire qu'on ne peut pas organiser une manifestation, la soirée, et parler des raisons de sécurité, je trouve ça très, 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 très superflu. Je trouve ça vraiment immoral et irresponsable de la part de quelqu'un qui se gargarise ou bien qui se qualifie d'un démocrate sincère. Il n'y a pas de sincérité dans ses propos et ils violent allègrement la Constitution et les lois de la République et surtout la loi portant encadrement de la manifestation sur les voies publiques. Et je vais vous dire, pour vous rappeler, ça ne fait pas 3 semaines que le parti dont Mohamed Bazoum est président, et le président de ce parti-là, qui est le parti qui est aujourd'hui au pouvoir,
le PNDS.
Ils ont organisé, le PNDS, ils ont organisé leur congrès ici à Niamey, alors que c'est l'avant-veille déjà de leur manifestation qui nous interdisent pour des raisons de sécurité. Et la veille de leur congrès, ils ont organisé un meeting avec des festivités toute la nuit jusqu'à 3 heures du matin à la devanture de leur siège national. Donc vous voyez que les raisons avancées pour des raisons de sécurité sont des raisons, tout simplement, des raisons fallacieuses pour pouvoir empêcher. Parce qu'ils ont vu l'allure que le mouvement est en train de prendre, la tournure que le mouvement est en train de prendre. Parce que chaque jour, je vous dis, c'est des milliers et des milliers qui nous regagnent dans la rue. Et cela inquiète le régime, cela fait peur au régime et cela tremble le régime. Donc c'est pourquoi ils ont pris, avant même, c'est juste, ils ont pris cette disposition juste après l'attaque qui a eu lieu sur la route de Wallam, à 40 km à Goubé, où il y avait eu 2 gendarmes qui sont morts. 3 jours après, ils ont sorti sur les réseaux sociaux un document qui est confidentiel, un document des gendarmeries qui est hautement confidentiel, qui se retrouve sur les réseaux sociaux, pour ne pas dire dans la rue, faisant état qu'il y aura probablement des attaques imminentes dans la ville de Niamey. Et ça, là, dès que ce document était sorti sur les réseaux sociaux, nous avons fait un point de presse pour alerter l'opinion nationale et internationale pour dire que c'est faux. Un document de la gendarmerie et surtout un document hautement confidentiel ne peut pas se retrouver dans la rue. Et donc, par conséquent, nous avons compris qu'ils veulent utiliser cette manœuvre-là pour nous empêcher de jouir de notre liberté, de jouir de notre droit constitutionnel garanti, parce que ce droit est un droit qui est garanti par la Constitution que le peuple nigérien s'est librement doté.
On entend bien, Issa, que voilà, vous dénoncez peut-être le deux poids, deux mesures en ce qui concerne la liberté de manifester. On va tout de suite, Issa Garba, si vous voulez bien donner la parole aux auditeurs. Je rappelle le numéro si vous voulez intervenir. Posez vos questions à notre invité, 01 55 07 58 00, 01 55 07 58 00. On commence tout de suite avec Koulibaly. Koulibaly, bonjour.
Oui, bonjour madame Hatman.
Bonjour monsieur Koulibaly. Oui. Vous vous dites que les pouvoirs en place sont là pour museler l'opposition.
Dans toutes les, pratiquement, bon, les cas du Niger, on en parle aujourd'hui, mais c'est pratiquement dans toutes les démocraties africaines. Le pouvoir en place fait toujours tout pour museler l'opposition. Voilà, les cas du Niger ne font pas exception, vraiment. Donc, ils bandissent.
Mais comment vous expliquez, parce qu'au Niger, on a un cas particulier quand même, c'est que le président, quand même, Mamadou, Issoufou, a quand même longtemps milité dans l'opposition. Il sait ce que c'est que d'être dans l'opposition. On avait, souvent, les observateurs ont souligné son élection comme une avancée démocratique pour le Niger. Est-ce qu'on peut parler de régression? Comment expliquer que ceux qui étaient hier dans l'opposition pratiquent les mêmes méthodes qu'ils dénonçaient hier?
Oui, exactement. C'est malheureusement le cas dans la plupart de nos démocraties africaines. C'est-à-dire à chaque fois que l'opposant aussi arrive à son tour au pouvoir, il essaie de museler toujours la même opposition à lui aussi, à son tour. Donc, et brandit souvent les cas d'état de droit, d'état d'urgence, c'est-à-dire des manifestations interdites. Et du coup, les opposants peuvent être effectivement emprisonnés sous couvert de la loi du droit. Ils peuvent être, comme c'est le cas du Niger.
Ce que vous dites finalement, Koulibaly, c'est qu'il y a instrumentalisation du pouvoir judiciaire, des juges, de la justice pour museler l'opposition. Merci Koulibaly de votre intervention. On va demander à Issa Garba ce qu'il en pense. Bien sûr, Issa, bonjour. Issa, excusez-moi. Vous avez entendu Koulibaly qui parle d'instrumentalisation de la justice. Est-ce que c'est le cas au Niger?
Oui, mais effectivement, vous savez, il y a toujours des juges qui sont à la solde de certains hommes politiques. Ou bien, il y a toujours des magistrats qui travaillent toujours, qui ont des affinités avec certains hommes politiques, ou bien qu'ils attendent à ce qu'on leur place à des niveaux de responsabilité dans la hiérarchie des juridictions, qui se mettent toujours au service de ces hommes politiques-là.
sans pour autant savoir ou bien se remettre du coup et se mettre en tête que la justice doit être rendue au nom du peuple et c'est au nom de ce même peuple-là qui doit rendre cette justice. Et ils font à leur tête en violant de tout ce qu'il y a comme texte et parce que tout simplement, quelque part, ils ont aussi la protection et la bénédiction de ces hommes politiques-là. Et il n'y aura pas de sanctions envers ce magistrat là délinquant parce qu'il faut l'appeler ainsi parce que quand il viole allègrement la loi, il n'est rien d'autre qu'un magistrat délinquant. Donc effectivement, il y a des magistrats aujourd'hui, qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas, qui sont à la solde de ces hommes politiques-là et qui les manipulent comme ils le veulent. Et souvent aussi, c'est des magistrats qui traînent aussi des casseroles dans les juridictions. Soit ils ont commis des erreurs de beaucoup de choses dans les juridictions et maintenant les hommes politiques les tiennent. Ils les tiennent par ces travers-là. Et donc maintenant, on les soumet à un certain nombre de dictats ou bien à les obliger même à renoncer vraiment au devoir pour lequel les citoyens les ont conféré le droit de juger ou bien de rendre les décisions de justice.
Issa Garba, je rappelais à Koulibaly tout à l'heure le parcours de Mamadou Issoufou, opposant à Mamadou Tandja, qui a milité contre les dérives autoritaires de Mamadou Tandja. L'actuel ministre de la Justice aussi, Marou Amadou, avait été incarcéré sous Mamadou Tandja. Comment expliquer que ce pouvoir, hier dans l'opposition, comme je le disais tout à l'heure, pratique finalement les mêmes méthodes que ce qu'il dénonçait auparavant ? Issa Garba ?
Oui, en fait, il faut comprendre ce que les gens en fait, ils envient même au moment où Tandja est en train de faire son tazar, c'est où il m'amenait. En réalité, quand vous regardez, ils enviaient même Tandja. Parce qu'aujourd'hui, les pratiques aujourd'hui qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire ça démontre que même au moment où Tandja est en train de malmener ces gens-là, ils les enviaient. Parce que si eux, ils étaient même peut-être à la place de Tandja, ils auraient fait pire que ce que Tandja a fait. Parce qu'aujourd'hui, jamais dans l'histoire du Niger, on a vu une vague d'arrestation des citoyens, au plus ou moins, d'arrestation des gens qui ont une autre lecture de la politique aujourd'hui mise en œuvre au Niger. Aujourd'hui, beaucoup de Nigériens qui ont une pensée contraire à celle des gens du pouvoir propices aujourd'hui dans les prisons. Jamais il y a eu une vague d'arrestation des acteurs de la société civile si ce n'est pas ce régime-là. Donc, vous voyez, ce qui veut dire qu'au moment où même Tandja est en train d'exercer son pouvoir oligarchique sur les Nigériens, eux, ils l'enviaient. C'est ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir, donc ils font pire que ce que Tandja a fait. Et nous nous posons la question, est-ce qu'une autre Tazarté ou bien un autre Tazarté n'est pas en gestation ou bien un autre Tazarté n'est pas en cours de route ou bien en téléchargement aujourd'hui au vu de vouloir museler la société civile, museler et tous les malpensants. Aujourd'hui, nous pensons qu'un Tazarté ou bien une autre forme de continuité du pouvoir n'est pas exclue.
Revenons à la loi de finances. Il nous reste quelques minutes. Issa Garba, depuis octobre 2017, vous dénoncez dans le cadre des journées d'action citoyenne cette loi de finances. Que lui reprochez-vous exactement à cette loi ? Quelles sont les mesures que vous contestez ?
Les mesures que nous contestons, surtout les mesures que nous contestons, c'est de vouloir retirer ou bien faire des exonérations à des compagnies de téléphonie à peu près 35 milliards.
Ouais.
Ils ont après 35 milliards d'exonérations sur les compagnies de téléphonie ou bien des compagnies qui viennent exploiter nos ressources et maintenant imposer de l'impôt sur les pauvres citoyens qui déjà le revenu aujourd'hui est le plus précaire de l'humanité. Parce que vous savez, l'indice de développement humain de l'IDH au Niger, le Niger est classé le dernier pays au monde.
Tout à fait.
65% des Nigériens vivent moins d'un dollar avec 3 repas par jour. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui n'ont même pas 2 repas par jour avec moins d'un dollar. Donc vous voyez que ce monsieur-là, on lui dit de payer l'impôt à la place de ces sociétés, de ces compagnies de téléphonie qui sont là, qui sont installées, qui se font de l'argent, qui se font toujours des milliards, jusqu'à exonérer 35 milliards.
On comprend.
Ce n'est pas du tout sérieux.
On comprend bien, Issa. Excusez-moi, Issa, je vous ai interrompu. On va prendre un auditeur, il reste quelques minutes, et on comprend bien effectivement que vous dénoncez les cadeaux faits aux grandes entreprises étrangères sur le dos des contribuables nigériens qui sont amenés à payer plus. Yann, bonjour.
Bonjour Stéphanie, j'aimerais intervenir concernant la question que vous avez posée concernant les opposants qui changent leur veste, on va dire, dès qu'ils sont au pouvoir, leur idéal politique.
Oui, je vous rappelle voilà, le parcours de Mahamadou Issoufou. Voilà.
Exactement. Donc moi, je pense que ça pose un réel problème de politique, en fait, la démocratie en tant que telle, ça pose le problème de la démocratie. Est-ce que la démocratie, c'est l'alternance au pouvoir ou la démocratie permet de jouir du pouvoir et de vraiment de consolider ce pouvoir-là, en fait, de pouvoir perdurer? Parce que tout homme politique a pour but de prendre le pouvoir et de le conserver, en fait, c'est ça. Et ces personnes-là sont face à un certain idéal quand ils sont dans l'opposition. Et lorsqu'ils viennent au pouvoir, ils sont face à la réalité du pouvoir. Et vous savez, le pouvoir, quand on prend le pouvoir, le but, c'est de jouir de ce pouvoir.
Ou d'être sanctionné par les urnes. On entend bien, Yann. Moi, je pensais que vous alliez me parler plus précisément du Niger, mais on a bien entendu qu'effectivement, hein, ça posait un problème dans le système démocratique. Issa Garba, je reviens vers vous concernant la loi de finances, puisque le FMI, hein, le Fonds monétaire international, est plutôt satisfait de cette loi. La mission des services du FMI s'est déclarée satisfaite de la mise en œuvre du programme de gouvernement. Est-ce que on peut regretter, Issa Garba, que le gouvernement nigérien, dont le principal parti, le PNDS, est d'obédience socialiste quand même, et préférer satisfaire le FMI plutôt que les besoins de sa population?
Non, mais comme vous dites, le PNDS est d'obédience socialiste. Je suis sûr et certain si, Guy Laverty, qui est président de l'intersocialiste, est à l'écoute. Je sais qu'aujourd'hui, il va beaucoup rire dans son
salon. On le salue s'il nous écoute d'ailleurs.
Il sait que le PNDS n'a rien de socialiste parce que ces gens-là sont venus au pouvoir. Aujourd'hui, ils se sont tellement multipliés des maisons et de grandes standings ici dans la ville de Niamey, connues et vues de tout le monde. Ils ont changé un train de vie et un pouvoir socialiste qui se tape 42 ministres dans un gouvernement qui constitue encore des charges supplémentaires sur le citoyen nigérien. Les ministres, avec leur suite, parce que quand vous prenez le ministre avec un chef de cabinet, un directeur de cabinet, un secrétaire particulier, chauffeur, du n'importe quoi, c'est aussi des charges sur les contribuables nigériens. Donc, vous voyez en quoi vous pensez que ce régime-là est socialiste? Il n'y a rien de socialiste. Quand vous voyez un régime qui fait des cadeaux fiscaux à des sociétés, à des compagnies étrangères, et répercute ça sur les citoyens qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts par rapport aux trois repas quotidiens, donc on me parle de socialisme? Non. Un pouvoir qui n'arrive même pas à honorer de ses engagements par rapport à la gratuité de l'école de 0 à 16 ans pour les citoyens nigériens, pour les enfants de la République, on ne peut pas me parler de citoyenneté. Un pouvoir ou socialiste où seuls les enfants et les dignitaires se soignent dans les pays étrangers au détriment des citoyens nigériens et surtout c'est avec leur contribution en matière d'impôts.
Normalement, ça doit changer hein, grâce à l'hôpital d'excellence qui a été inauguré en 2016. Je crois, normalement, il faut plus sortir du pays pour se soigner.
Madame, nous allons croire à ça quand le président de la République lui-même va tomber malade. Je ne le souhaite pas à toute personne. Mais quand il sera tombé, mais c'est dans tous les cas, c'est un être humain. Nous sommes tous appelés à tomber malade. Mais le jour où il va tomber malade, quand il va se coucher à l'hôpital de référence, ou le premier ministre, ou le président de l'Assemblée, ou une de leurs épouses vont se coucher là-bas, c'est en ce moment-là que nous allons croire. Mais on ne peut pas, par un simple document, pour faire un effet de com', pour nous dire que non, mais dorénavant, non. Madame, c'est du concret, nous avons besoin, nous n'avons plus besoin de la communication. C'est un effet de communication, nous connaissons ça venant des hommes politiques, et ça, nous avons démystifié ça, et ça, nous ne prenons pas ça en compte tant que nous ne voyons pas la réalité en face de nous.
Issa Garba, il nous reste 3 minutes, j'ai 2 petites questions rapides. Une question quand même sur la mobilisation en octobre, les manifestations contre la loi de finances avaient plutôt mobilisé. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ça semble faiblir. L'opinion nigérienne est-elle encore de votre côté? Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, pour terminer, je voulais savoir si vous avez des nouvelles des gens qui ont été enlevés du côté de Ngelewa, c'est il y a quelques mois maintenant, par Boko Haram. Je voulais savoir si on avait des nouvelles de leur libération.
Oui. Pour votre première question, je dis que non, la mobilisation chez nous, ça ne faiblit pas. Parce que les citoyens sont en train de vivre dans leur chair aujourd'hui les effets de la loi de finances. Aujourd'hui, ne serait-ce qu'aujourd'hui, ce matin-là, il y a plus de 10 personnes qui m'ont contacté pour me dire que leur facture d'électricité a doublé. Ceux qui payent 30 000 aujourd'hui payent 82 000. Ceux qui payent 20 000 aujourd'hui payent 60 000. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, les citoyens vivent ça dans leur chair. Ce n'est plus une question de politique, ce n'est plus une question de mouvance ou d'opposition. Non, c'est les citoyens qui payent cher, c'est les Nigériens qui payent cher. Et seuls ceux qui sont au pouvoir, qui détiennent une parcelle de pouvoir, qui sont pris en charge par le budget national, ne sentent pas aujourd'hui la chérité de la vie. Ils ne sentent pas le coût de la vie. Donc,
c'est normal qu'eux, ils pensent que non, il n'y a pas eu augmentation parce que nous les prenons en charge à travers les impôts directs et indirects que nous payons. Mmh. Mais les citoyens qui, lui, se prend en charge à la sueur de son front, lui, il sait réellement qu'il y a une situation de calvaire qu'il est en train de vivre, insoutenable et intenable qu'il est en train de vivre. Donc, la mobilisation, je vous dis, vous allez voir le dimanche prochain comment les citoyens vont encore se mobiliser et seront encore déterminés à dire non à cette loi de finances que nous trouvons antisociale et scélérate. Revenons
clair.
Pour votre deuxième question, ce qui concerne les filles de Ngaleloa. Personne n'a les nouvelles parce que le gouvernement même ne communique pas. Vous avez vu, depuis l'enlèvement de ces filles de Ngaleloa, il n'y a pas une communication spécifique gouvernementale qui est sortie du gouvernement, ou bien même ne serait-ce qu'avant-hier, l'anniversaire de l'investiture du président de la République, vous avez vu, il n'y a rien eu par rapport aux filles d'Ngaleloa. On ne parle même pas de ça dans la communication gouvernementale. Ils sont oubliés. C'est différent de la communication que le Nigeria a maintenue par rapport aux filles de Chibok qui ont été enlevées. Ou la première dame, le président, ils ont tout fait avec des hashtags Ngaleloa, Ngaleloa. Aujourd'hui, il n'y a que les jeunes Nigériens qui sont des blogueurs sur Facebook, qui sont sur les réseaux sociaux, qui demandent la libération, qui demandent des informations. Mais le gouvernement fait sourd l'oreille, comme si ce n'est pas un événement, comme si ce ne sont pas des Nigériens qui sont enlevés, comme si vraiment c'est des gens qui n'ont jamais existé sur le territoire nigérien. Donc, vraiment, on oublie depuis leur enlèvement, on les a retirés leur
on pense à eux ici, Issa Garba, on arrive à la fin de l'émission, on pense à eux ici, effectivement, ça fait plus d'un an que 39 personnes ont été enlevées dans la localité de Ngaleloa, dans la région du lac Tchad, à 100 km de Diffa, c'est au Niger. On arrive à la fin de cette émission. Je voulais juste rappeler aux auditeurs que quand on parle aussi de facture d'électricité au Niger, il faut rappeler que l'électricité en France fonctionne aussi grâce à l'uranium nigérien. Merci Issa Garba d'avoir été notre invité. Merci à tous de votre participation. On se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs.